Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors merci d'abord, merci d'être présents, si nombreux chaque semaine. Merci aussi pour vos retours. Et il y a 15 jours exactement, l'un d'entre vous est venu après le cours me poser une question tout à fait pertinente. Je parlais, vous vous en souvenez peut-être, de l'impérialisme culturel français sous Napoléon. Et l'objection, en substance, était la suivante. L'Empire napoléonien n'est pas le seul cas d'impérialisme dans l'histoire. Qu'a-t-il donc de si particulier ? Alors, je prends le temps d'y répondre aujourd'hui, car cela me permet de préciser plusieurs points, de ramasser certains acquis des dernières séances, et aussi de cadrer peut-être, de donner un cadre à celle d'aujourd'hui et à la suivante. Alors oui, bien entendu, il existe différentes formes d'impérialisme dans l'histoire, si on entend par impérialisme, au fond, des formes de domination exercées par un peuple, par une nation, par un État, sur d'autres, à travers la conquête militaire, l'exploitation économique ou l'imposition culturelle. De même qu'il existe des façons très diverses de gérer la diversité humaine, juridique, politique des empires. La bibliographie est aujourd'hui extrêmement riche sur toutes ces questions. Je vous renvoie notamment à un livre que j'avais déjà cité l'an dernier de Frederick Cooper et Jane Burbank. Dans l'autre sens d'ailleurs. Empire. Ce que l'impérialisme napoléonien avait de particulier, à mon sens, du moins ce qui m'intéresse particulièrement dans le cadre de cette série de cours, eh bien, c'est qu'il parlait le langage du droit, de la liberté et du progrès, bref, de la civilisation, ce mot essentiel de la période. Mieux même, il tenait le langage de l'émancipation. Il ne parlait pas d'annexion, vous vous en souvenez, mais de réunion. En imposant la législation française, il annonçait détruire de vieux préjugés et de vieilles servitudes au nom du progrès et des Lumières. Bref, il se réclamait de l'universel. Il proclamait que sa mission était celle de la France apportant la civilisation au monde. Alors ici encore, quand je dis qu'il se réclamait de l'universel, il faut préciser l'Europe médiévale, je l'avais rappelé l'an dernier, était dominée par le conflit entre deux figures de l'universalisme, l'Empire et l'Église. La spécificité de l'universel moderne, tel qu'il émerge des Lumières, est d'être fondé sur la raison et la liberté des individus, sur leur capacité à fonder eux-mêmes les normes auxquelles ils choisissent d'obéir. Mais cela ne produit pas pour autant un universalisme cohérent et unique, je l'ai rappelé, vous en souvenez, lors de la première séance de ce cours, mais plutôt trois langages concurrents et complémentaires prétendant tous à l'universalité. Un universel cosmopolite, fondé sur le droit naturel et la liberté de conscience des individus, un universalisme historique fondé sur la notion de civilisation et un universalisme critique fondé sur la dénonciation des injustices et la révolte des opprimés. C'est un rappel très rapide, mais c'est pour situer pourquoi cet universalisme, cet impérialisme parlant les langages de l'universel m'intéresse. Car aujourd'hui, vous le savez bien, dans la pensée, dans la culture politique française, ce qu'on appelle universalisme, ou parfois universalisme républicain, eh bien, c'est une conception très spécifique et très restrictive de ces langages de l'universel. Elle articule deux choses. D'une part, une conception de la citoyenneté fondée sur la méfiance à l'égard de toute revendication particulière ou minoritaire, et par ailleurs, un discours qui fait de la France, pays des droits de l'homme et des Lumières, le porteur d'un message de liberté adressé au monde. Et donc, vous l'avez compris, pourquoi je rappelle tout ça ? Parce que le cours de cette année, au fond, est une généalogie critique de ce discours de l'universalisme républicain. Ce que j'essaye de comprendre avec vous, de séance en séance, ce sont les étapes par lesquelles est passé ce discours ou ces langages pluriels de l'universel pour cristalliser progressivement dans ce que nous appelons aujourd'hui universalisme républicain. Alors, la semaine dernière, nous avions vu comment la révolution de 1848 avait justement articulé l'idéal d'une unité nationale et ce que j'ai appelé l'universalisme nationaliste, autour du slogan donc, de République universelle, d'une part, et puis du mot d'ordre de la fraternité. Fraternité sociale, c'est l'unité, et fraternité des peuples. Et je m'étais particulièrement arrêté, vous vous en souvenez, donc sur la mise en place du suffrage universel et sur le ralliement, la conversion presque, de Victor Hugo à la République au nom du message universaliste de la France. Alors aujourd'hui, je voudrais rester dans cette perspective, dans ce moment, au milieu du XIXe siècle, mais en insistant sur le rôle que l'histoire et les historiens ont joué dans la construction de ce discours. Et pour cela, je m'appuie sur un contemporain de Victor Hugo, un autre géant du XIXe siècle, au fond son alter ego historien, Jules Michelet. Alors, bien sûr, là encore, j'anticipe cette fois une objection, y a-t-il encore des choses à dire sur Michelet? On sait tout de lui, de son œuvre immense, qui a été maintes fois commentée, de sa vie même, puisque grâce à sa correspondance et à son journal, qui a ouvert une fenêtre sur sa vie intime et même érotique, on sait à peu près tout. Ses textes ont été maintes fois commentés. Il existe d'excellentes biographies, celle classique de Paul Vialanex et celle plus récente et très bonne aussi de Paul Petitier. Mais c'est une autre dimension que je voudrais suivre. Le rôle qu'a joué Michelet dans la construction du mythe universaliste de la Révolution française et plus largement de l'histoire de France. Et pour cela, il faut s'intéresser au fond à ce que Michelet a de plus inactuel. Vous le savez bien, ce qui continue à fasciner chez Michelet, c'est son souffle, son écriture, son rythme, son sens de l'émotion, sa capacité d'évocation. Bref, tout ce qui se situe au croisement exact de l'histoire et de la littérature, tout ce qui rappelle sans cesse aux historiens à quoi ils renoncent lorsqu'ils se plient aux règles de la méthode et à la sobriété de la langue universitaire, tout ce qui rappelle sans cesse aux écrivains que l'histoire est une réserve sans fin de récits et de sens. Et à l'inverse, ce qui nous semble inactuel, ce qui nous intéresse moins, c'est sa philosophie de l'histoire. Alors, faisons un effort. Pour cela, il faut remonter en amont plutôt de son histoire de la Révolution française, publiée, je vous le rappelle, de 1847 à 1853, mais je vais y revenir tout à l'heure, et même en amont de son histoire de France, dont les premiers volumes paraissent en 1833. Deux ans auparavant, en 1831, en avril 1831, Michelet, qui a alors 33 ans, avait publié un texte court mais important, son introduction à l'histoire universelle. À ce moment-là, il a donc 33 ans, Michelet est autant un philosophe qu'un historien. Depuis le milieu des années 1820, il est sous la protection et l'influence de Victor Cousin, le philosophe le plus charismatique de l'époque, qui allait devenir, sous la monarchie de Juillet, la grande figure institutionnelle et intellectuelle de la philosophie française. Michelet, pour sa part, enseigne alors la philosophie aux élèves de l'école préparatoire, ce qui était avant et qui redeviendra l'école normale. Il lit sur les conseils de Victor Cousin les philosophes écossais et surtout, il découvre Vico, le philosophe napolitain du début du XVIIIe siècle, auteur de la Science nouvelle, dont Michelet va faire une base de sa propre philosophie de l'histoire en lui empruntant notamment l'idée d'une humanité prométhéenne, c'est-à-dire une humanité qui est capable de forger elle-même sa propre destinée. Ça, c'est l'idée fondamentale que Michelet prend à Vico. Et d'ailleurs, en 1827, il publie une traduction abrégée, assez libre, du livre de Vico, ainsi qu'un essai consacré à ce dernier. Au même moment, c'est intéressant de le noter, il y a une conjoncture intellectuelle, puisque au même moment, son ami Edgar Quinet, lui aussi, sous l'influence de Cousin, découvre Herder, tandis que Cousin, lui, s'initie en Allemagne à Hegel. La philosophie de l'histoire était alors à la mode. Mais il manque à Michelet une étincelle. Tout cela est quand même très théorique, il lui manque une étincelle, l'épreuve de l'histoire vécue. Et c'est la Révolution de juillet 1830 qui la lui fournit. Il est saisi par l'enthousiasme, il y voit la révélation du destin de la France guidée par le génie de la liberté. Il écrit alors l'introduction à l'histoire universelle, un texte donc court, presque fiévreux à vrai dire, dont il dira plus tard qu'il a été écrit sur les pavés brûlants. Il en existe plusieurs éditions, je vous recommande, j'ai mis l'édition originelle, mais je vous recommande notamment l'édition d'Aurélien Ramini dans le volume Philosophie de l'histoire, qui regroupe d'autres textes de Genèse de Michelet avec une très utile préface. Ramini a d'ailleurs consacré à la philosophie de l'histoire de Michelet sa thèse, puis un livre publié en 2019. Alors, l'introduction à l'histoire universelle est entièrement tendue vers une idée. L'histoire universelle, dit Michelet, est celle de la victoire progressive de la liberté sur la fatalité, de l'homme sur la nature, et cette histoire culmine dans l'histoire de France. Elle n'est pas une histoire comme une autre, elle est la réalisation, enfin celle-ci, hein, l'histoire de France, n'est pas une histoire comme une autre, elle est la réalisation de l'histoire universelle. D'ailleurs, les premiers mots de cette introduction à l'histoire universelle sont les suivants. Ce livre pourrait aussi bien être intitulé « Introduction à l'histoire de France ». C'est à la France qu'il aboutit. Alors, une telle affirmation, précise tout de suite Michelet, n'est pas dictée par le patriotisme. Bon, on a le droit d'en douter, mais ils disent non, c'est une évidence historique et logique. La France est désormais la patrie qui incarne l'histoire moderne de la liberté. Comment l'expliquer ? Eh bien, c'est que la France ne peut pas être réduite à sa géographie, comme l'Angleterre, qui est une île, ni à sa race, comme l'Allemagne, ni à une religion, comme l'Espagne, avec le catholicisme. La France est le pays par excellence de la fusion des races, dit Michelet, qui ainsi déplace le vieux schéma historiographique venu du XVIIIe siècle sur la guerre des races. Il utilise même un paradigme chimique. Il dit, au fond, la France, c'est un mélange d'éléments divers. Ces éléments ont été broyés par l'histoire, par le pouvoir centralisateur qui a nivelé les conditions, qui a réduit en poussière les groupes et les races, et qui a fait du peuple français, je cite Michelet, « le plus mélangé de tous les peuples, prêt dès lors à la fusion chimique dans la... » Qu'est-ce qui manque ? Il manque la chaleur. Eh bien, la chaleur, c'est la Révolution de Juillet qui va permettre cette fusion du plus mélangé de tous les peuples. Né du mélange, à l'intersection du Midi et du Nord, carrefour de l'Europe, la France se crée elle-même. Elle échappe à tout déterminisme et donc à toute fatalité. En ce sens, elle est la liberté en acte. Elle incarne ce geste prométhéen dont Michelet, donc suivant Vico, fait le propre de l'histoire humaine. Elle n'est pas une race, elle est une nation. Et c'est justement parce que la France, en raison de son histoire propre, échappe au déterminisme naturel, qu'elle incarne désormais le destin de l'humanité, celui de la liberté. Alors, il est vrai qu'un autre pays aurait pu apparaître comme un candidat crédible à ce rôle de pays de la liberté, c'est l'Angleterre. Mais Michelet n'aime pas du tout l'Angleterre, et donc il prend soin de dresser un portrait à charge de l'inflexible orgueil de l'Angleterre qui l'empêche de s'ouvrir au monde. La liberté anglaise est très incomplète, c'est une liberté aristocratique, ou alors à l'inverse, une liberté marchande, industrielle, un peu vulgaire. Bref, deux figures, dit Michelet, de l'égoïsme et de l'individualisme. L'Angleterre est tiraillée entre son passé féodal et son présent industriel. Elle est donc à la fois héroïque et barbare, elle est fondamentalement insociable. Il lui manque quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qui lui manque ? Il lui manque l'idéal de l'égalité des droits qui fonde la fraternité. Et donc, il revient évidemment à la France d'incarner cette grande idée moderne, la liberté dans l'égalité. Et Michelet peut alors écrire « La liberté de la France est juste et sainte. Elle mérite de commencer celle du monde et de grouper pour la première fois tous les peuples dans une unité véritable d'intelligence et de volonté. » La France, donc, est le pays de la liberté parce qu'elle est le creuset d'un peuple qui se constitue lui-même en nation. Or, cette nation n'est pas tournée vers elle-même, elle est tournée vers l'extérieur, elle est tournée vers le monde. Non pour faire des conquêtes, mais pour lui enseigner la liberté. Enseigner la liberté au monde, nous dit Michelet, au fond, c'est lui enseigner à être français. Alors, ne commence pas à rire parce qu'il va y en avoir beaucoup de citations comme ça. Alors, et vous croyez que je plaisante, mais en réalité, vous croyez que j'exagère. Alors, lisons ce passage où Michelet parle du moment au XVIIe siècle où la France a commencé à franciser les autres nations par le prestige de sa langue et de sa culture. Et j'ai bien dit au XVIIe siècle, car à ce stade de sa carrière, je vais y revenir, mais c'est important, à ce stade de sa carrière et de sa réflexion, donc on est en 1831, Michelet n'insiste pas du tout sur la Révolution française. L'universalité de l'histoire de France remonte plus haut à cette monarchie absolue qu'il dénoncera vigoureusement quelques années plus tard. Voilà ce qu'il écrit. L'amour des conquêtes est le prétexte de nos guerres et nous-mêmes, nous y sommes trompés. Toutefois, le prosélytisme en est le plus ardent motif. Le Français veut surtout imprimer sa personnalité aux vaincus, non comme sienne, mais comme type du bon et du beau. C'est sa croyance naïve. Il croit, lui, qu'il ne peut rien faire de plus profitable au monde que de lui donner ses idées, ses mœurs et ses modes. Il y convertira les autres peuples, l'épée à la main, et après le combat, moitié fatuité, moitié sympathie, il leur exposera tout ce qu'il gagne à devenir français. Alors, quand j'ai lu ce texte pour la première fois, j'ai pensé qu'il y avait une part d'ironie sous la plume de Michelet et que les termes naïveté ou fatuité indiquaient une sorte de prise de distance. Mais en fait, il n'en est rien. D'ailleurs, il enchaîne ainsi. Ne riez pas. C'est lui, c'est pas moi, c'est Michelet cette fois. Ne riez pas. Celui qui veut invariablement faire le monde à son image finira par y parvenir. Les Anglais ne trouvent que simplicité dans ces guerres sans conquête, dans ces efforts sans résultat matériel. Ils ne voient pas que nous manquons le but mesquin de l'intérêt immédiat pour en atteindre un plus haut et plus grand. Et vous remarquez qu'il est passé au nous. Il n'y a pas de prise de distance avec le français un peu naïf. Non, la naïveté n'est que dans le jugement cynique et intéressé des Anglais. Le prosélytisme français, Michelet l'assume. Il dit « nous ». Il revendique cette vocation nationale. Alors, ce grand but, quel est-il? Eh bien, je cite à nouveau, c'est la suite. « L'assimilation universelle à laquelle tend la France n'est point celle qu'ont rêvé dans leur politique égoïste et matérielle l'Angleterre et Rome. C'est l'assimilation des intelligences, la conquête des volontés, qui jusqu'ici y a mieux réussi que nous. Chacune de nos armées, en se retirant, a laissé derrière elle une France. Notre langue règne en Europe, notre littérature a envahi l'Angleterre sous Charles II, l'Italie et l'Angleterre et l'Espagne au dernier siècle. Aujourd'hui, ce sont nos lois, notre liberté si forte et si pure, dont nous allons faire part au monde. Ainsi va la France dans son ardent prosélytisme, dans son instinct sympathique de fécondation intellectuelle. » Alors on entend, c'est intéressant parce qu'on entend encore le langage voltairien de la civilisation, le rôle civilisateur de la cour de Louis XIV, les succès européens de la langue et de la culture française. Lorsque Michelet écrit que la France est l'héritière directe de Rome, il semble reproduire Louis-Antoine Caraccioli qui écrivait « Jadis, tout était romain, aujourd'hui, tout est français », ou Rivarol qui affirmait dans son essai sur l'universalité de la langue française « Le temps semble venu de dire le monde français comme autrefois le monde romain ». Je vous renvoie notamment au cours de l'an dernier, à la séance du 22 janvier, pour être précis sur ces citations. D'ailleurs, Michelet admire Voltaire, auquel il consacrera en 1844 un grand article, et en qui il voit une révolution sous forme humaine. Michelet n'a cessé de se réclamer de l'héritage du XVIIIe siècle, le grand siècle, comme il aimait l'appeler. Un héritage qui n'est pas seulement intellectuel, qui est aussi familial, personnel, puisque le XVIIIe siècle, pour Michelet, c'est son père, au sens propre, ce Fursy Michelet, dont il fut si proche et dont il écrivit dans son journal à sa mort qu'il appartenait essentiellement au XVIIIe siècle. Et là, je cite Michelet, « Il appartenait essentiellement au XVIIIe siècle, au siècle de Voltaire et Rousseau. Ce qu'il avait d'opinion ou d'habitude d'esprit, il le tenait de ce temps et ne s'en écartait guère. Moi-même, Il me regardait dans ma vie préparatoire m'agiter, nager dans le flot des temps et des opinions. Sorti du XVIIIe siècle, je m'en écartais parfois un moment pour y revenir toujours. Toujours, je retrouvais mon père, c'est-à-dire la vraie France de Voltaire et Rousseau. Toutefois, malgré ce lien à la fois intellectuel et familial avec le XVIIIe siècle, eh bien, dans sa philosophie de l'histoire, Michelet va plus loin, car chez Voltaire, et plus largement au XVIIIe siècle, ce discours civilisateur était compensé par une distance critique, ironique à l'égard des préjugés et des ridicules des Français, par un refus presque de principe d'un patriotisme trop affirmé, par l'admiration sincère pour l'Angleterre, véritable modèle de la liberté, ou encore par la fascination pour le passé des civilisations indiennes et chinoises, ou plus généralement par un scepticisme inquiet. Tout cela a disparu, remplacé par une philosophie de l'histoire dont la France est désormais le principe. Le peuple français, écrit Michelet, s'intéresse à la liberté du monde, il s'inquiète des malheurs les plus lointains, l'humanité tout entière vibre en lui. Alors rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure en commençant, un impérialisme qui parle le langage de l'universel et de la liberté. Derrière les conquêtes de la France, celles de Louis XIV et celles de Napoléon, comme celles de la Révolution, il y a en réalité un prosélytisme culturel et intellectuel qui est le véritable moteur de l'histoire moderne. La France, ajoute Michelet, est le peuple législateur des temps modernes. La France agit et raisonne, décrète et combat. Elle fait l'histoire et la raconte. Les autres peuples, en l'imitant, lui décernent le pontificat de la civilisation nouvelle. Alors, il faut reconnaître que nous ne sommes pas très à l'aise aujourd'hui avec de telles formules. Cette philosophie de l'histoire n'est plus la nôtre. Les historiennes et les historiens, bien sûr, n'admettent plus que la France soit le pilote du vaisseau de l'humanité, formule de Michelet. Et les historiens ne l'acceptent plus, comme le dit Patrick Boucheron, au seuil de l'histoire mondiale de la France, pourtant placée sous la bannière d'une autre citation du même texte, donc de l'introduction à l'histoire universelle. Cette citation, c'est la suivante : « Ce ne serait peut-être pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France. » Mot de passe énigmatique plutôt que cri de ralliement, précise-t-il. Et de fait, la formule fascine et suscite aisément le malentendu, car Michelet n'est pas un historien des rapports de la France et du monde, même s'il saura faire place, surtout après 1850, à un ailleurs plus fantasmé que connu, qui lui permet notamment, comme l'a montré Sylvain Wenner, de comprendre la Renaissance comme un moment de découverte du monde, de rencontre entre l'Orient et l'Occident, comme un pas décisif vers l'unité du genre humain. Mais il reste que son histoire de France n'est pas tant mondiale qu'universelle. Elle est la seule qui mérite d'être enseignée, et surtout enseignée à elle-même, car l'histoire de France, dit Michelet, n'est pas seulement une légende particulière, elle est la religion nouvelle, la source de toute lumière. Écoutez plutôt, et je cite encore Michelet, « Cette nation, considérée ainsi comme l'asile du monde, est bien plus qu'une nation. C'est la fraternité vivante. Le jour où se souvenant, qu'elle fut et qu'elle doit être le salut du genre humain, la France s'entourera de ses enfants et leur enseignera la France comme foi et comme religion, elle se retrouvera vivante et solidifiera le globe. » De telles formules, en effet, je viens de le dire, nous embarrassent. Elles nous embarrassent pourquoi ? Elles nous embarrassent par ce qu'on pourrait appeler une forme de chauvinisme exalté. Ce patriotisme fervent, malgré sa tonalité républicaine et généreuse, évidemment, ne peut plus être notre viatique. En revanche, nous pouvons chercher à comprendre l'importance que ce discours a eue dans toute la culture historique et politique du XIXe siècle et les traces profonde qu'il a laissée dans le langage républicain. Michelet lui-même, d'ailleurs, avait parfaitement conscience que de telles formules pouvaient sembler excessives et il prend soin d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de fanatisme, c'est son propre mot, mais du résultat de longues études historiques, d'une réflexion de plusieurs années, une chose grave à laquelle j'ai pensé longtemps, dit-il. Il me serait trop facile, dit-il, de montrer que les autres nations n'ont que des légendes spéciales, que le monde n'a pas reçues. Ces légendes, d'ailleurs, ont souvent ce caractère d'être isolées, individuelles, sans lien, comme des points lumineux isolés les uns des autres. La légende nationale de France, est une traînée de lumière immense, non interrompue, véritable voie lactée, sur laquelle le monde eut toujours les yeux. Vous voyez, on pourrait en citer beaucoup quand même. Hein. C'est pas une. Alors, c'est exprès, c'est pour montrer que ce n'est pas une ou deux citations comme ça. C'est l'ensemble, c'est pour vous donner quand même une impression de la lecture de ce texte. Et d'ailleurs, en fait, il faudrait tout commenter de ces citations, hein, à commencer par cette légende nationale de France. D'ailleurs, je propose que ça remplace avantageusement le roman national, hein, expression qui commence à être un petit peu usée. Je parlerai de la légende nationale de France. Alors là, tout de suite, ça, quand même, ça renverrait quelque chose d'un peu plus audacieux. Mais c'est surtout, évidemment, la métaphore de la lumière qui me frappe ici, que vous avez déjà entendu, dans sa façon d'associer la référence religieuse, celle du vrai et du juste, et la référence savante, celle du vrai. La France, à proprement parler, pour Michelet, éclaire le monde, et son rôle, à lui, Michelet, c'est de donner forme à cette histoire, d'enseigner la France à la France, en produisant un récit vrai, éclairé et édifiant. Et ce sera l'histoire de France, son histoire de France, et il pourra écrire rétrospectivement, 40 ans plus tard, dans la préface à la réédition de 1769, un des grands textes tardifs de Michelet, il écrira, ce sont les premiers mots, « Cette œuvre laborieuse d'environ 40 ans fut conçue d'un moment dans l'éclair de juillet. Dans ces jours mémorables, une grande lumière se fit et j'aperçus la France. » Alors, le jeune Michelet, en 1831, n'est pas le seul à être saisi par l'enthousiasme de la révolution de juillet qui semble arracher l'histoire à la fatalité et relancer le mouvement de la liberté. Mais il est peut-être celui de sa génération qui a donné le plus de force, le plus de lyrisme à cette idée d'une universalité spécifique de l'histoire de France. Il y revient en 1846 dans un livre bien connu qui s'appelle Le Peuple et dont le chapitre 6 est intitulé La France supérieure comme dogme et comme légende, la France est une religion. Michelet y reprend les thèmes de l'universalité de l'histoire de France, développés 15 ans plus tôt. Celle-ci n'est pas un accident de l'histoire, elle vient d'un long passé de 2000 ans qui a fait de la France l'héritière légitime de Rome, ce qui permet à Michelet, cette affirmation assez extraordinaire, « Toute autre histoire est mutilée, la nôtre seule est complète ». Prenez l'histoire de l'Italie, il y manque les derniers siècles. Prenez l'histoire de l'Allemagne, de l'Angleterre, il y manque les premiers. Prenez celle de la France, avec elle, vous savez le monde. En elle seule, le passé celte et le passé romain de l'Europe sont mêlés. Et quand Michelet insiste sur l'héritage de Rome, c'est évidemment un double héritage, héritage de l'Empire romain, héritage de l'Église chrétienne. Ces deux traditions de l'universel dans l'Europe, dans l'histoire européenne. Rome eut le pontificat du temps obscur, la royauté de l'équivoque, et la France a été le pontife du temps de lumière. Hein, prenons au sérieux cette idée que la France est une religion de lumière. Nous l'avons déjà rencontrée et nous allons retrouver tout à l'heure ce thème de la religion de lumière. Toutefois, Le Peuple commence aussi à marquer l'évolution de la pensée de Michelet. Il s'est politiquement radicalisé, il a pris ses distances avec Victor Cousin et avec la monarchie de Juillet. La révolution de 1830 a pâli et les combats des couches populaires réclament désormais toute son attention. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1831, la Révolution française était très peu présente dans l'introduction à l'histoire universelle, sans doute parce qu'à l'époque, elle était encore trop associée, trop fortement associée à la terreur. Il était donc plus facile pour un jeune universitaire comme Michelet de faire l'éloge de 1830. Dans les années suivantes, Michelet se plonge dans le Moyen-Âge à la recherche donc de ce principe ancien de la France. Mais au fond, il se heurte très vite à un paradoxe. Comment la France médiévale, celle des rois et des églises, peut-elle annoncer la liberté moderne, le peuple devenant nation? Ce paradoxe éclate au milieu des années 1840. Michelet est arrivé au XVe siècle, à la fin du sixième tome de son Histoire de France. Il a vécu aussi un drame familial avec la mort de sa première épouse. Puis, il a une sorte de révélation en visitant la cathédrale de Reims. Si bien qu'en 1845, il abandonne provisoirement son Histoire de France pour se lancer dans l'histoire de la Révolution française qui va paraître en 7 volumes de 1847 à 1853. C'est bien sûr, c'est son, à mes yeux son chef-d'œuvre, en partie rédigé dans l'ébullition de la Révolution de 1848, puis dans la déception du retour à l'ordre et de la trahison du coup d'État. Alors c'est très intéressant par rapport au livre de 1831 parce que l'universalité de l'histoire de France, elle reste affirmée de manière très nette, mais elle est déplacée. C'est désormais la Révolution française qui atteste de cette universalité, et celle-ci fait absolument rupture. À la différence des historiens libéraux, comme Tocqueville, mais aussi Guizot, qui, au même moment, cherchaient les causes lointaines ou proches de la Révolution française, eh bien Michelet, lui, ne cherche pas à inscrire la Révolution dans la continuité de ce qui précède, ni la politique centralisatrice de l'État absolu, ni la lutte des classes et l'essor de la bourgeoisie. Pour lui, 1789 est une rupture. C'est la scène inaugurale de l'histoire moderne, une véritable fondation. En faisant la Révolution, la France ne fait pas sa propre histoire. Elle accomplit une rupture majeure dans l'histoire de l'humanité. La prise de la Bastille, par exemple, est, dit Michelet, une des fêtes éternelles du genre humain, et on pourrait multiplier les exemples. Michelet forge, comme personne avant lui, le mythe universaliste de la Révolution française. Le sommet de l'histoire de la Révolution, à ses yeux, le moment heureux et glorieux par excellence, c'est la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, ce moment où la France commémore sa propre révolution, tout en la faisant, célèbre sa propre unité et prend à témoin toutes les nations qu'une ère nouvelle de liberté s'est ouverte. Toutes les nations ont été appelées au solennel banquet de la liberté. Je cite, « En ce jour de bonheur, l'humanité tout entière s'est trouvée présente dans l'âme et les vœux de la France. La fraternité des Français, leur mouvement d'union et de communion, appelle et annonce la fraternité à venir de tous les peuples. Et c'est en cela qu'elle est universelle, je cite encore, ce mariage de la France avec la France semblait un symbole prophétique du futur mariage des peuples, de l'hymen général du monde. » Le mariage de la France avec la France, écrit Michelet. Or, la formule pointe justement ce qui fait, à ses yeux, la grandeur de la Révolution, non seulement le message universel envoyé à tous les peuples du monde, mais surtout le mouvement d'unité et même peut-être d'unification nationale. Ce moment inouï où tous les peuples de toute la France ont communié dans le désir et la volonté de faire nation commune, en abandonnant leurs spécificités locales ou régionales. Ce n'est pas l'État monarchique qui a fait la France, ce n'est pas le christianisme qui a fait la France, dit Michelet, c'est la volonté collective, soudain exprimée, de ne faire qu'un seul peuple. Le mouvement commence dès l'hiver 1790, puis au printemps, avec le mouvement des fédérations. Michelet reprend la métaphore de la lumière, rien de plus beau à voir que ce peuple avançant vers la lumière, sans loi, mais se donnant la main. Fin de la citation. Sur l'autel de la patrie, chacun abandonne ses particularités locales, son patois, son attachement à la région. Ce qui paraissait insurmontable, tant la France était une mosaïque de peuples divers, se fait désormais sans difficulté. Je cite, « Pour atteindre à l'unité, rien n'a fait obstacle, nul sacrifice n'a coûté. Du coup, d'un coup, sans s'en apercevoir même, ils ont oublié à la fois les choses pour lesquelles ils se seraient fait tuer la veille, le sol natal, la tradition locale, la légende. Plus loin, le monde semblait se rapprocher de cette unité, son but véritable auquel il aspire toujours. L'union, si vous voulez, l'union n'est pas suffisante. L'unité, fondée sur le rejet des particularités dans la fraternisation, est au cœur de la nation nouvelle. Et d'ailleurs, les femmes y jouent un rôle éminent. Elles montrent, dit Michelet, plus d'élan, plus d'ardeur que les hommes eux-mêmes, plus d'impatience de prêter le serment civique. Ce qui permet d'ailleurs à Michelet de protester, on est en 1847, ce qui lui permet de protester contre l'exclusion des femmes de la vie civique. Il écrit « On oublie trop que vraiment, elles y ont plus de droits que nous. » Alors, ce puissant chapitre, oui, j'ai oublié de vous mettre cette gravure, justement, de 1790 représentant la fédération, la fête de la fédération, mais oui, ce chapitre, qui est très magistral, a été commenté, a fait l'objet d'un commentaire, enfin de nombreux commentaires, mais notamment d'un commentaire par le philosophe Jacques Rancière, qui y voit le modèle et même la scène fondatrice du récit historique moderne. Jusque-là, essentiellement, l'histoire de France avait été l'histoire des rois, une chronique du pouvoir, de ses actes et de ses paroles. Michelet, lui, veut écrire une histoire adaptée au temps démocratique, donc une histoire du peuple, des masses anonymes qui constituent le peuple souverain. Pour cela, il met en scène la liesse des fédérés et évoque les lettres que ceux-ci ont écrites à l'Assemblée, lettres d'amour à la nation et à la Révolution, lettres maladroites mais sincères que Michelet a pu consulter aux archives nationales. Vous savez que Michelet a été responsable de la section historique des archives à partir de 1830 et qu'il a été un des premiers, peut-être le premier, à écrire l'histoire de la Révolution française à partir des archives et pas simplement à partir de témoignages ou de textes écrits, publiés. Et d'ailleurs, il en tirait une fierté tout à fait légitime. Il évoque donc ces documents sur lesquels il fonde son récit des fédérations du printemps et de l'été 1790. Je cite, « J'ai retrouvé tout cela entier, brûlant comme d'hier, au bout de 60 années, quand j'ai récemment ouvert ces papiers que peu de gens avaient lus. » Donc, l'historien aux archives. Mais ces lettres, ces mots d'amour maladroits du peuple, Michelet ne les cite jamais. À sa place, il se met en scène, lui, l'historien, les consultant, il décrit leur matérialité, la qualité du papier, les rubans tricolores, mais il ne nous dévoile pas leur contenu. Ou plus exactement, il nous le commente. Il les remplace, ces citations qu'il ne donne pas, par le souffle lyrique de son propre récit, chargé de leur donner du sens, de dire mieux qu'elles ne pourraient le faire, l'amour infini du peuple pour la nation naissante. Michelet, affirme Jacques Rancière, invente l'art de faire parler les pauvres en les faisant taire, de les faire parler comme muets. Alors attention, il ne s'agit pas d'adresser à Michelet une critique un peu paresseuse qui serait de confisquer à son profit la parole du peuple. Ce n'est pas exactement cela. En fait, Michelet trouve, selon Rancière, une solution adaptée à son temps qui n'est pas encore celui des sciences sociales, mais qui n'est plus celui de la chronique monarchique. Il invente donc une histoire démocratique où le récit inspiré et poétique de l'historien a pour charge de donner le sens de l'événement, de donner à cette histoire sa force et sa cohérence. Plus fidèle, au fond, à ce que fut vraiment l'enthousiasme de 1790 que ne le seraient des lettres artificielles, peut-être maladroites, écrites par des gens ordinaires. Il s'agit d'une véritable révolution poétique du savoir, dit Rancière, qui prend acte de ce nouveau sujet historique qu'est le peuple, mais qui conjure aussi ce nouveau danger propre à l'âge démocratique, qui est la prolifération illimitée de la parole populaire. Alors, curieusement, Rancière est peu intéressé par l'importance du thème de l'unité nationale. Mais on peut poursuivre son analyse dans cette direction, car le choix de Michelet est aussi déterminé par sa volonté de donner corps à ce grand moment d'enthousiasme national. Citer les textes, multiplier les histoires particulières, évoquer des cas comme le ferait un historien moderne, eh bien, l'aurait amené à fragmenter le récit, à multiplier les spécificités, à marquer des écarts. Or, la généralisation à laquelle il procède, l'unité qu'il donne à sa narration par la cohérence de son style est parfaitement en phase avec ce qu'il veut montrer, ce passage de l'union à l'unité, cette poussée vers la fusion nationale, le refus de toute particularité. Et c'est donc la voix de l'historien, son style, son langage, qui devient la garantie de cette unité. De même que son récit lui-même, l'histoire qu'il écrit, vise à donner à la France un plein accès à elle-même, la révélation de la dimension véritablement universelle de son histoire. Contrairement à ce que l'on croit parfois, le peuple n'est pas le vrai sujet de l'histoire racontée par Michelet. Son vrai sujet, c'est la nation. Avec elle, il a trouvé dès 1830 le sens même de son récit. La France, ce n'est justement pas la France immobile, fidèle à elle-même, à ses clochers, à ses seigneurs, à ses rois, à ses villages. C'est au contraire une France qui se construit par la rupture révolutionnaire, par cet énorme effort de la volonté collective qui s'appelle la Révolution. Alors ceci est vrai, mais à condition de ne pas gommer ce qu'il y a de religiosité évidente dans cette conception que Michelet se fait de la France, et tout particulièrement dans ce chapitre sur la fête de la Fédération, dont le titre, j'ai oublié de vous le mentionner, est le suivant, « De la religion nouvelle ». De la religion nouvelle. Lisons encore. « Il y a dans ces immenses réunions où le peuple de toute classe et de toute confession ne fait plus qu'un même cœur, une chose plus sacrée qu'un autel. Aucun culte spécial ne prête de sainteté à la chose sainte entre toutes, l'homme fraternisant devant Dieu. » L'histoire de Michelet, l'histoire de la Révolution française de Michelet, n'est ni un récit savant, ni un récit littéraire. C'est une liturgie. C'est la liturgie de la religion universaliste de la nation française. Et l'histoire de la Révolution est l'histoire de la Fédération est le sommet de cette liturgie, le moment où la France se révèle à elle-même et où elle est révélée à Michelet. « Oui, il y a eu révélation », écrit-il dans l'introduction à l'histoire de la Révolution française. La Révolution, donc, impose un nouvel évangile, celui de la justice contre celui de la grâce. C'est un point très important, à la différence de son ami Edgar Quinet, qui lui aussi proposera une importante histoire de la Révolution française quelques années plus tard. Michelet ne voit pas de continuité entre la Révolution et l'histoire chrétienne de la France. Au contraire, il y a rupture totale. La France moderne, celle de la liberté et de la justice, répudie son héritage chrétien. Mais ce faisant, elle investit une autre forme de spiritualité qui se manifeste dans la communion du peuple, dans la révélation de la nation et de son destin universel. Voilà ce qu'écrit encore Michelet à propos du 14 juillet 1790, donc toujours ce même chapitre. La fraternité a aplani tout obstacle, toutes les fédérations vont se confédérer entre elles, l'union tend à l'unité. Plus de fédérations, elles sont inutiles, il n'en faut qu'une, la France. Elle apparaît alors transfigurée dans la lumière de juillet. Vous voyez, la lumière de juillet 1790 a remplacé l'éclair de juillet 1830. À chaque fois, Michelet a une expérience quasiment mystique. La France lui apparaît transfigurée, révélée, unie dans la fraternité. Comme l'écrit Vialanex, il a eu la révélation de la Révolution, elle a bouleversé sa pensée et sa vie même. Parfois même, le mouvement vers l'unité est tellement puissant dans le récit de Michelet qu'il déborde le cadre humain de la fraternité, il s'élargit au monde vivant et même au monde minéral. Vous voyez par exemple ce moment un peu plus tard, en septembre 1792, où les Savoyards accourent à Chambéry pour recevoir les troupes françaises. Et Michelet écrit « Du moment que cet excellent peuple eut appris que ses libérateurs arrivaient, il n'y eut plus moyen de le retenir. Tout entier, il vint à leur rencontre. Ce fut comme un soulèvement universel de la contrée. Les hommes seuls partirent, mais les arbres et les pierres, toute la terre de Savoie eût voulu se mettre en chemin. » Ce panthéisme vraiment universel débouche d'ailleurs sur l'apparition d'un dieu. Même les sauvages paysans du Maine, excusez-moi, même les sauvages paysans du Maine, dit Michelet, viennent baiser l'autel du dieu inconnu. L'unité nationale est un acte de foi qui fait émerger un dieu nouveau, inconnu, qui s'appelle la France et qui s'appelle la justice, car c'est tout un. Avec la Révolution, l'histoire de France recommence l'histoire du monde, ou plutôt, elle devrait recommencer l'histoire du monde. Mais si la Révolution a été une incroyable promesse sacrée, eh bien, cette promesse n'a pas été entièrement tenue, la religion nouvelle n'a pas su s'imposer. Comme le dit très bien Paul Petitier dans l'introduction de l'excellente édition de récente dans la Pléiade de l'histoire de la Révolution française, en tant qu'avènement, la Révolution est parfaite et ne peut être effacée. En tant qu'événement, elle aurait pu s'écrire autrement. Et c'est donc en quelque sorte le rôle de Michelet de l'écrire comme elle aurait dû s'écrire, de discerner ce qui reste en elle de fécond et d'actuel pour la génération actuelle ou les générations futures, et c'est en cela que le projet de Michelet est fondamentalement politique. Alors après avoir achevé son histoire de la Révolution, dont le dernier tome fut publié, je le redis, en 1853, Michelet n'en avait évidemment pas fini avec l'histoire de France. Révoqué depuis 1852, il vit dans une sorte d'exil intérieur, il travaille, il écrit, il reprend son histoire de France, les volumes sur la Renaissance, l'âge classique, le siècle de Louis XV, puis il enchaîne sur l'histoire du XIXe siècle. En parallèle, sous le Second Empire, Michelet publie plusieurs ouvrages plus courts, La sorcière, hein, bien sûr, mais aussi La mer, La montagne, L'oiseau, L'insecte, dans lesquels il donne libre cours à ce réseau textuel d'obsessions que décrira plus tard Roland Barthes, et dans lequel la critique a souvent voulu voir l'influence de sa seconde femme, Athénaïs Mialaré. Aujourd'hui, ces ouvrages ont une fortune nouvelle, car ils témoignent d'un Michelet naturaliste, écologiste, prophète du monde sensible, ce qui, quand même, a un peu plus tendance, hein, avouons-le, que le Michelet patriote républicain exalté. Mais je voudrais évoquer un autre livre qui, en revanche, n'a guère été reconnu par la postérité et qui est rarement commenté, malgré une réédition en 2009 par Lodice Retta, c'est « La Bible de l'humanité » que Michelet a publié en 1864, qu'il a certainement écrit comme une réponse agacée au succès de « La vie de Jésus » de Renan, ce livre qui, l'année précédente, en 1863, avait connu un prodigieux succès et un prodigieux succès de scandale. Ce qui déplaît à Michelet dans le livre de Renan, ce n'est pas la fameuse thèse de l'humanité de Jésus qui a tellement scandalisé la France du Second Empire. Non, c'est la centralité laissée à l'histoire biblique, à Jérusalem. Or, depuis le milieu des années 1850, Michelet a commencé à rompre assez profondément avec le modèle de la philosophie de l'histoire qu'il avait élaboré au début de sa carrière sous l'influence de Victor Cousin et qui plaçait l'Orient du côté de l'enfance du monde, de l'irrationalité, du despotisme. Désormais, il s'intéresse justement de plus en plus aux civilisations orientales. Il fait de nouvelles lectures. Une en particulier qui le bouleverse littéralement, c'est le Ramayana, la grande épopée indienne. De là, il se met à lire les Védas, ces très anciens textes sacrés du sanskrit. Et ces lectures ont réussi à le convaincre d'un autre universalisme, bien plus vaste que celui de l'histoire européenne et même que de l'histoire de France. Il écrit dans la Bible de l'humanité « Un grand résultat moral nous est venu de tout ceci, c'est-à-dire de toutes ces lectures et surtout donc de toute cette nouvelle érudition des savoirs orientalistes qui se développent à partir du milieu du XIXe siècle. On a vu le parfait accord de l'Asie avec l'Europe, celui de temps reculé de notre âge moderne. Donc, une seule humanité, un seul cœur et non pas deux, la grande harmonie à travers l'espace et le temps est rétablie pour toujours. Silence à la sotte ironie des sceptiques, des docteurs du doute, qui disaient que la vérité varie selon la latitude. La voix grêle de la sophistique expire dans l'immense concert de la fraternité humaine. Oui, il n'a rien perdu de son lyrisme. La Bible de l'humanité est un livre étonnant. Il est composé comme un diptyque. La première partie est consacrée à l'éloge de ce que Michelet appelle les peuples de la lumière, l'Inde antique, la Perse et la Grèce archaïque. À ces trois civilisations s'opposent la part sombre de l'Antiquité, l'Égypte, Carthage, la Judée, qui ont partie liée avec la mort, avec l'équivocité, avec les ténèbres. Ce déplacement, une fois encore, n'est pas tout à fait sans rappeler le geste de Voltaire dans l'essai sur les mœurs qui, lui aussi, manifestait sa fascination pour l'Inde ancienne et son rejet d'une histoire universelle, notamment celle de Bossuet, qui donnait, disait-il, une place excessive à l'histoire biblique. D'ailleurs, Michelet rend un hommage vibrant à celui qui fut vraiment, au XVIIIe siècle, l'initiateur des études indiennes, voyageur et découvreur de textes, Anquetil du Perron. Toutefois, là encore, on ne peut pas tracer juste un trait d'égalité, car le geste de Michelet se situe dans un contexte intellectuel extrêmement différent de celui du XVIIIe siècle. Nous sommes 1864, et le livre de Michelet fait sens directement dans l'ensemble des travaux qui, à ce moment-là, font émerger le mythe indo-européen, l'opposition entre l'idée de peuple indo-européen et de peuple sémite, qui était de plus en plus marquée par les théories raciales alors en vogue. L'antichristianisme radical de Michelet, à ce moment-là, le conduit, en disqualifiant la Bible, le conduit aux frontières de l'antisémitisme. Lorsqu'il écrit, par exemple, que la Bible juive appartient à une autre race ou qu'il associe le sémite à l'obscurité et à la nuit, on ne peut s'empêcher de projeter sur le texte l'ombre d'idéologies funestes. Et c'est ce qui rend la lecture aujourd'hui de ce texte un peu difficile, un peu compliqué, ce qui explique sans doute qu'il soit assez peu lu et commenté, alors même que, par ailleurs, la générosité universaliste et humaniste de Michelet dans sa découverte de la culture de l'Inde, de l'Antiquité indienne et des religions, de la religion perse, pourrait justement l'inscrire dans une généalogie du savoir humaniste. D'ailleurs, dans la Bible de l'humanité, et là aussi c'est une différence avec le XVIIIe siècle, la Chine est totalement écartée. Et là c'est une grande différence. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit bien d'opposer une Bible de lumière venue des anciens mondes indo-européens à la Bible des ténèbres, celle des trois monothéismes du livre. Comme l'a montré Catherine Koenig-Pralong dans son livre « La colonie philosophique », Michelet renverse totalement le système hérité de Victor Cousin. Désormais, la vérité est du côté de l'Antiquité indienne et perse, tandis que l'Europe chrétienne, mais aussi le Proche-Orient biblique, sont condamnés. Il reste néanmoins, au cœur de ce bouleversement complet du système de la philosophie de l'histoire de Michelet, il reste un point fixe, vous ne serez pas surpris, 1789. Michelet achève sa Bible de l'humanité par une très longue citation de sa propre introduction à l'histoire de la Révolution française. Celle-ci, cette Révolution française, n'a rien perdu de son universalité. Elle est toujours la source moderne de la liberté, mais elle a définitivement rompu les liens avec l'histoire européenne qui la procède. Elle renoue plutôt avec l'histoire lumineuse et glorieuse antérieure aux religions du livre. Si bien que Michelet peut affirmer « De l'Inde jusqu'à 89, descend un torrent de lumière, le fleuve du droit et de la raison. La haute antiquité, c'est toi, et ta race est 89, le Moyen-Âge est l'étranger. Toujours la lumière, mais celle-ci désormais vient de beaucoup plus loin. Michelet invite donc à renier résolument le Moyen-Âge chrétien au profit de la lumière de l'Orient. J'ose à peine continuer à citer, je ne voudrais pas me fâcher avec mes amis médiévistes, hein, mais voici, il faut faire volte-face et vivement, franchement, tourner le dos au Moyen-Âge, à ce passé morbide qui, même quand il n'agit pas, influe terriblement par la contagion de la mort. Il ne faut ni combattre, ni critiquer, mais oublier. Oublions et marchons. Alors, la Bible de l'humanité, c'est un document assez extraordinaire, néanmoins, sur les débats intellectuels des années 1860, sur la pensée de Michelet, son évolution et la présence à l'horizon de son œuvre d'une autre figure de l'universalité, élargie cette fois aux dimensions du monde. Il reste, comme je l'ai dit, que cette œuvre a eu assez peu de postérité, même très peu. En revanche, évidemment, l'histoire de France, et en particulier l'histoire de la Révolution française, ont bénéficié très rapidement, après la mort de Michelet, 1874, d'un statut fondamental, considéré comme un monument culturel, un fétiche historiographique et national, alors même d'ailleurs que la méthode de Michelet était désormais dépassée par les progrès de l'histoire savante sous la Troisième République. C'est tout le paradoxe, notamment de l'histoire de la Révolution française, qui s'est en vérité assez peu vendu lors de la première édition, surtout à partir du troisième tome, mais qui a été promu par le gouvernement républicain au moment du centenaire, en 1889, comme une œuvre majeure, la grande histoire républicaine de la Révolution. Quant à l'histoire de France, elle n'a cessé d'être lue avec admiration et de très nombreux historiens, aussi bien Gabriel Monod que Lucien Febvre, plus tard, s'en sont réclamés. Lucien Febvre a fait plus que cela, il a vu en lui le créateur de l'histoire de France, celui qui, le premier, avait su doter la France d'une conscience historique. Et il consacra ainsi une année de cours, en 1943-44, à l'histoire de France de Michelet, cours édité en 2014 par Brigitte Mazon et Yann Potin. L'enjeu, vous l'imaginez bien, n'était pas seulement historiographique, mais aussi politique, puisque dans Paris encore occupé, Lucien Febvre faisait résonner haut et fort l'idée d'une France éternelle, pays de la liberté, et il appelait, ce sont les derniers mots de son cours, à ne pas perdre foi en elle, à garder les yeux sur cette étoile fixe dans la nuit présente. Michelet, c'était donc sous la plume de Lucien Febvre, dans Paris occupé, en 1943, c'était le patriote visionnaire, l'historien inspiré de la nation. Mais l'enjeu était aussi historiographique. Ce que Febvre reconnaissait, c'était une double dette. Avant Michelet, écrivait-il, la France existait. Mais c'est Michelet qui lui a donné une forme historique, qui lui a donné une conscience nationale en écrivant son histoire. Il écrivait, c'est depuis Michelet que la France est un pays, que la France est une nation dans la conscience des Français. Mais surtout, Febvre retient de Michelet non seulement son lyrisme, mais aussi sa conception de l'histoire de France comme mélange, comme fusion de races diverses, comme volonté d'échapper aux pesanteurs du passé, à la fatalité de la nature, de se renouveler en permanence, d'aspirer à l'unité à travers la diversité, c'est-à-dire toute cette philosophie de l'histoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Michelet, écrit Febvre, est le premier qui a tenté de montrer sur le sol de la patrie que nous aimons la multiplicité des races qui s'y sont succédées et qui s'y sont multipliées pour devenir ce que nous sommes. Et vous voyez à nouveau comment historiographie et politique se mêlent dans cet éloge de la diversité, d'une France qui se renouvelle constamment, carrefour des grandes routes migratoires de l'Europe, une France, écrit-il encore, qui plus qu'aucun pays au monde appartient à tous ses fils pareillement, également. Alors Lefebvre, qui écrit ceci, est aussi celui qui écrira 5 ans plus tard, avec François Crouzet, un manuel d'histoire de la civilisation française pour les enfants, qui ne fut jamais publié, mais qui a été redécouvert et édité par Denis Crouzet et Elisabeth Crouzet-Pavant sous le titre Nous sommes tous des sangs mêlés », titre qui rend bien compte de l'inspiration michelétienne du manuel publié sous les auspices de l'UNESCO, enfin rédigé plutôt, puisqu'il n'a pas été publié à l'époque. Voilà peut-être un dossier à joindre au débat sur l'identité nationale que l'on nous promet ou dont on nous menace. Fèvre n'est pas le seul, évidemment, à se réclamer de Michelet après la Seconde Guerre mondiale, comme l'a montré Camille Creighton dans son beau livre « Résurrection de Michelet », à travers, à côté du Michelet républicain, du Michelet historien, il y a eu aussi un Michelet gaulliste, moins chez De Gaulle, hein, qui avait lu bien sûr Michelet, mais qui n'avait pas forcément besoin de lui pour se faire une certaine idée de la France, mais à travers André Malraux, qui était un fervent admirateur de l'historien, dont il reprenait souvent des formules dans ses discours. Par exemple, lorsqu'il disait avoir dans la Résistance « épousé la France », ce qui est une formule de Michelet. Politiquement, il voyait en Michelet une sorte de précurseur de ce que le gaullisme devait être à ses yeux, non pas un courant politique de droite, mais un dépassement des clivages par l'aspiration à la fraternité, à l'égalité sociale et à la grandeur nationale. C'est ce qu'il appelait, figurez-vous, le bloc Michelet. Il déclarait par exemple « À partir du moment où on lie la solidarité avec la conscience de l'épique que la France a apportée au monde, on est dans ce que j'ai appelé le bloc Michelet. » C'était un concept politique pour lui. Hein, donc bloc pour bloc, hein, avouons que ça avait un peu plus de style que bloc central. Hein. Donc bloc Michelet, voilà, retenons. Alors, parallèlement, la réception de Michelet, et je vais terminer par là, a joué évidemment un rôle considérable pour naturaliser le mythe de l'universalité de la Révolution française et au-delà de la mission universelle de la France, des formules que nous avons lues tout à l'heure sur le rôle de la France, pilote du vaisseau de l'humanité, etc., on en a un peu souri, mais elles ont nourri en profondeur l'imaginaire patriotique culturel et on en retrouve des échos sous des formes à peine affadies dans les manuels scolaires de la Troisième République. Alors, on pourrait en citer plein, ça pourrait être un cours entier. Alors, je vais juste me contenter d'un exemple, un extrait du cours d'histoire de cours moyen d'Ernest Lavis, le petit Lavis, qui parle du patriotisme pour aboutir à l'universel. Je cite, « En défendant la France, nous défendons la terre où nous sommes nés, la plus belle et la plus généreuse terre du monde. En défendant la France, nous nous conduisons comme de bons fils. Nous remplissons un devoir envers nos pères qui se sont donné tant de peine depuis des siècles pour créer notre patrie. En défendant la France, nous travaillons pour tous les hommes de tous les pays. Car la France, depuis la Révolution, a répandu dans le monde les idées de justice et d'humanité. La France est la plus juste, la plus libre, la plus humaine des patries. » Lorsque Lavis écrit ceci, pour les enfants de France, en 1912, le contexte n'est ni celui de Michelet écrivant dans le souvenir immédiat et ému de la Révolution de 1830, ni celui de Lucien Febvre mobilisant Michelet pour maintenir la flamme de la nation sous l'occupation allemande, mais plutôt celui de l'Empire colonial français à son apogée. La mission civilisatrice et universaliste de la France était alors devenue aussi une mission colonisatrice. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, mais vous verrez que nous n'en avons pas totalement terminé avec Michelet. À la semaine prochaine.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.